Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI, première partie. Invité aujourd'hui, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand jury un peu spécial, puisque dans la deuxième partie, vous débattrez avec Laurent Escure, secrétaire général du syndicat UNSA, premier syndicat à la RATP et deuxième syndicat à la SNCF. Mais pour vous interroger dans cette première partie, à mes côtés, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Adrien Gindre de TF1 LCI.
Bonjour
Adrien. Et puis dans la question en plus, ce sera Samuel Thomas, président de la Maison des Potes, qui vous interpellera à propos des discriminations à l'embauche. Et bien sûr, question nette, comme d'habitude, avec Marie-Pierre Haddad en fin de première partie. Vos questions, vos interpellations à la ministre, et Marie-Pierre Haddad les relaiera donc en fin de première partie. Alors Muriel Pénicaud, plus d'un mois après le début de la grève, Édouard Philippe a donc annoncé hier le retrait provisoire de l'âge pivot qui empêchait tout compromis. Alors est-ce un tournant dans la crise qui secoue le pays ? Quoi qu'il en soit, cette crise risque de laisser des traces dans le dialogue social auquel vous devez veiller, vous, en tant que ministre du Travail. Nous en parlerons bien sûr dans cette émission, mais nous commençons d'abord par une question sur la poursuite des grèves, c'est ce qui préoccupe les Français. La question vous est posée par Adrien Gindre.
Oui, parce que ce compromis, Muriel Pénicaud, il a été obtenu avec la CFDT, avec la CFTC, avec l'UNSA, mais d'autres syndicats, eux, appellent à poursuivre le mouvement. C'est le cas de la CGT, de Force Ouvrière, de la Confédération Générale des Cadres. Il y aura de nouvelles journées de mobilisation la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous leur dites? Ce sont des jusqu'au boutistes, des irresponsables, ceux qui veulent continuer le mouvement?
Je crois que, d'abord, on est dans une étape où on peut sortir de la crise. Il y a une voie pour sortir de la crise. C'est ce compromis qui a été trouvé. Tout le monde a bougé. Et on est passé d'une logique d'affrontement à une logique de dialogue. Le dialogue, c'est ce qui va permettre maintenant d'aller aux solutions. Alors, pour les organisations syndicales qui continuent d'appeler à la grève, moi, je leur demande de réfléchir. Parce que là, il y a des choses à discuter sur la table. Je ne veux pas croire que la CGT et FO ne s'intéressent pas au sujet de pénibilité, de fin de carrière. Il y a beaucoup de choses à discuter. Donc, il y a un moment donné... Il faut savoir, comme disaient certains, terminer une grève pour obtenir des choses, pour discuter. Et moi, j'appelle tout le monde à être autour de la table pour discuter
donc
des progrès qu'on va faire.
Vous reprenez les mots de Maurice Thorez, il faut savoir arrêter une grève.
Exactement, c'était Maurice Thorez.
Guillaume Roquette.
Mais la CGT et FO ne vous envoyaient aucun signal pour vous dire qu'ils étaient prêts à arrêter le mouvement. Au contraire, ils ont dit, même si on retire l'âge pivot, nous, on continue.
Oui, mais la CGT et FO tout seul, ça n'est pas tout le pays. Et moi, je crois que les syndicats, ils représentent les salariés. Mais qu'il faut regarder l'ensemble des organisations syndicales. Et il y a des organisations syndicales, la CFDT, l'UNSA, la CFTC, qui sont conscients et qui approuvent le système par points, s'il est plus juste, ce qu'on veut tous, il est universel, qui permet d'avoir une évolution du système qui sera durable. Parce qu'un de nos sujets, c'est d'être sûr d'avoir un système qui va marcher, pas simplement demain matin, mais pour ceux qui partent à la retraite dans 10 ans ou dans 40 ans.
Mais là, vous
et
avez
là,
fait des
donc,
gestes.
On a des gestes de part et d'autre, puisque finalement, ils acceptent l'idée qu'il y a une question d'équilibre financier, et nous avons accepté, le Premier ministre a accepté l'idée de retirer l'âge pivot en attendant les débats sur cette question d'équilibre.
On va y venir.
Pourquoi
justement.
On va revenir
sur l'âge pivot, Madame la Ministre, juste sur la question des gestes. Vous avez fait des gestes pour avoir un compromis avec la CFDT, la CFTC, l'UNSA. Est-ce que vous êtes prêt dans les jours à venir à faire des gestes en direction de la CGT Force Ouvrière pour eux aussi les amener vers la fin du mouvement?
Alors moi je crois qu'il y a déjà eu beaucoup de gestes de fait, notamment sur les régimes spéciaux, notamment sur les périodes de transition qui sont en cours de discussion et donc on comprend très bien la légitimité. Pour des personnes qui travaillent à la RATP, à la SNCF, qui sont entrées il y a longtemps dans un statut,
donc la réponse, non,
la réponse c'est la
gestes.
Transition. Ouais. Mais vous savez, on discute avec ceux qui veulent discuter. Moi, je note qu'il y a des syndicats qui, en France, veulent discuter avec le patronat, qui est concerné aussi, avec l'État. Eh bien, on avance avec tous ceux
ils
qui veulent discuter.
Ils sont là mardi à vos côtés, vous les recevez tous les, tous les syndicats. Est-ce que vous comptez sur la présence de la CGT et de Force Ouvrière?
Alors, mardi dernier, j'ai, en présence du Premier ministre, j'ai reçu au ministère du Travail toutes les organisations syndicales et patronales.
Et mardi prochain.
Toutes sont venues, y compris la CGT et FO. Simplement, ce n'est pas les numéros 1 qui sont venus. Pour les autres, c'était les numéros 1. Et donc, eh bien, je pense qu'ils viendront mardi.
Mais en même temps, vous avez fait une concession sur l'âge pivot. Vous comprenez que ces deux syndicats, CGT et FO, peuvent dire puisqu'il y a eu un pas, on peut maintenant demander l'abrogation. On peut aller plus loin.
Alors, je crois qu'il faut...
Le retrait de la loi, qu'est-ce que vous leur dites ?
Ben, je crois qu'il y a une erreur. Le dialogue social, c'est un peu mon métier. C'est même tout à fait mon métier. Ce n'est pas un sujet de concession. C'est un sujet de compromis. C'est quoi la différence ? La concession, c'est juste le rapport des forces. Allez, on bouge un peu, on est obligé, on revient en arrière. On
c'est ce que vous avez fait.
Non, on a fait un compromis. Un compromis, ça veut dire que chacun bouge et qu'ensemble, on se dit, pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt des salariés, pour l'intérêt des générations suivantes, on va bouger pour essayer le plus possible de construire quelque chose sur lequel on est d'accord.
Donc, vous leur dites, il n'y aura pas de
concession. Et donc, la convergence, c'est le compromis. Le fin du dialogue social, c'est quand même le compromis. C'est ce qui permet d'obtenir des choses.
Quoi ?
D'ailleurs, vous notez quelque chose ? Quels sont ceux qui ont obtenu ? Ceux qui sont allés autour de la table et qui ont discuté. C'est ceux-là qui obtiennent, parce qu'ensemble, on progresse.
Ça veut dire qu'il peut y avoir une forme de radicalisation du côté de la CGT et de Force ouvrière, si vous dites maintenant, c'est fini, on ne va pas plus loin.
Alors là, je note que quand même, dans le secteur privé, y compris CGT et Force ouvrière, il y a extrêmement peu de mouvements de grève. Donc quand vous parlez d'un mouvement de radicalisation, on parle de quelques secteurs, plutôt dans le secteur public, dans certaines organisations. Mais tout à l'heure, nous verrons Laurent Escure, qui, l'UNSA, est un rôle de représentation très important dans le secteur public. Il faudra l'interroger là-dessus.
Et vous pouvez nous dire qu'il y aura
des trains, des syndicats,
hein. Il y aura des trains pour les vacances de février pour les Français ?
Alors, je pense que ça dépend de tous ceux qui prennent leurs responsabilités. Je pense qu'il faut interroger, avec cette donnée nouvelle, toutes les organisations syndicales pour savoir si, à un moment donné, elles vont vers l'intérêt général. Et encore, il y a beaucoup de choses. Et encore, une fois, il y a beaucoup de choses à discuter. Sur le minimum contributif, Laurent Pietraszewski a ouvert des discussions là-dessus.
Le secrétaire d'État.
Sur le secrétaire des charges de retraite. Oui. Moi, je mène des discussions sur la pénibilité, la retraite progressive, la gestion des carrières longues.
Vous attendez une reprise du trafic de total, complet, à la RATP, à la SNCF, dans combien de temps, combien de jours ?
Alors, vous savez, le sujet, c'est pas de faire des pronostics, c'est de rendre les choses possibles. La responsabilité du gouvernement, c'est de rendre les choses possibles. La responsabilité des organisations syndicales aussi. Les syndicats réformistes et le gouvernement ont avancé pour rendre les choses possibles. Et donc, maintenant, on va voir, c'est une dynamique.
Alors, c'est une dynamique, mais pourquoi ne pas être allé plus vite pour obtenir cette dynamique ? Pourquoi avoir attendu autant de temps alors que Laurent Berger, dès début décembre, vous disiez que l'âge pivot, c'est une ligne rouge ? Pourquoi ne pas l'avoir retiré à ce moment-là ? Est-ce qu'il fallait d'abord user les syndicats à ce point ?
On n'est pas dans cette logique-là, ça n'a pas de sens. Mais, vous savez, la dynamique du dialogue social, excusez-moi encore de parler de mon métier, mais ce n'est pas blanc-noir du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se discute. On peut regarder vers le passé, moi je regarde vers l'avenir. Encore une fois, on est passé d'un affrontement, y compris avec ces organisations,
un dialogue.
Et ce dialogue, il va permettre quoi ? Maintenant, c'est la phase des solutions. C'est ça qui compte, c'est le futur.
Il faut refaire
l'histoire, mais on la fera demain. Pour l'instant, il faut faire l'histoire
de demain.
Pardon,
parce que nous, ça nous intéresse de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il fallait, oui ou non, atteindre les pratiquement 40 jours de grève pour qu'un compromis soit possible ? C'est ce que vous nous dites, en fait.
C'est pour que, des deux côtés, oui, parce que les organisations syndicales ont aussi accepté, en regardant les faits, en regardant les chiffres, l'idée qu'il y avait un sujet d'équilibre du système. Et donc, c'est le pas qu'ils ont fait. Ils nous ont fait le pas du.
C'est aussi la grève qui vous a obligé à réfléchir, alors.
Je voudrais expliquer cette histoire d'équilibre, parce que beaucoup de gens, ils ne comprennent pas, ou on m'interpelle.
On va y venir, on voudrait comprendre votre logique. Parce que vous dites, c'est la logique du dialogue social. Ce que vous nous dites, c'est donc
que chacun a bougé.
La grève vous a fait réfléchir et vous a fait bouger.
La grève et les discussions avec les organisations syndicales, celles qui sont prêtes à jouer le jeu, parce qu'elles savent que le système à points universel, il est plus juste, il est meilleur pour les Français. Avec elles, le dialogue, petit à petit, le Premier ministre a fait beaucoup de discussions avec eux, a permis de voir qu'il y avait une voie de passage,
mais
puisque chacun était prêt.
Le Premier ministre ne s'est pas braqué, certains de vos collègues parlent en coulisses, de sages décisions. Donc vous dites que c'est aujourd'hui une sage décision d'Édouard Philippe ?
Non, mais je crois que c'est, encore une fois, la dynamique. Chacun a bougé, et maintenant, place aux solutions.
Oui, alors,
c'est quand même une forme de victoire d'Emmanuel Macron contre Édouard Philippe. Emmanuel Macron avait dit, on ne repoussera pas l'âge de la retraite. Édouard Philippe avait dit, il n'y a pas d'autre solution. Et finalement, il recule.
Je crois que c'est une victoire pour les Français quand on arrive à converger sur le plan social.
Ce sont des éléments de gouvernement.
Non, ce n'est pas un élément de langage. Je pouvais dire ça il y a 10 et 20 ans et je n'étais pas au gouvernement. Donc, regardez ce que je disais il y a 10 ou 20 ans, j'ai toujours dit ça. Parce que moi, je crois à cette culture de compromis.
C'est une réalité qui a une divergence.
Et voilà. Et maintenant, moi, je me réjouis. Et je salue cette convergence. Maintenant, on a encore beaucoup de choses à discuter.
Le Premier ministre et le Président de la République.
Je ne crois pas une seconde à cette version.
Tout va bien entre eux, ils sont sur la même ligne. Exactement le même.
De mon point de vue, je vois un petit peu des choses.
Même quand le gouvernement, je n'ai pas vu d'écart. Le Premier ministre de trouver un compromis rapide.
Il lui a demandé de trouver un compromis rapide.
Donc, accélérer les choses. Il avait besoin de le dire.
Chacun dans son rôle. Parce que ce n'est pas lui qui fait les compromis, c'est le gouvernement, et donc c'est normal qu'il demande au Premier ministre.
Adrien, vous parliez du dialogue social. Le fait est qu'il y a des gens qui ont eu des positions très tranchées pendant toutes ces semaines de grève, au sein des entreprises, des grévistes et des non-grévistes côte à côte. Quelle trace il va en rester? Est-ce que vous imaginez que demain, les grévistes et non-grévistes puissent retravailler ensemble dans de bonnes conditions, comme si de rien n'était?
C'est arrivé beaucoup de fois dans l'histoire sociale.
Et ça ne s'est pas toujours bien passé en 95, ça
mais
s'est pas
je crois
bien
que,
passé
que oui, mais on n'est pas du tout dans le même contexte. Je crois que ce qui compte, ce n'est pas ça. C'est est-ce que nous allons convaincre, et on a encore du travail à faire, les Français que, effectivement, le système sera suffisamment clair, plus juste, pour qu'il soit, je dirais, attractif, et pour que tout le monde, qu'une majorité de Français se dise on va dans cette
donc
voie,
ça ne
c'est bien.
Pas de trace.
Je crois que ça dépend pas mal de l'issue. Si on continue à faire des avancées avec les organisations syndicales, j'espère toutes, mais au moins les réformistes, sur les sujets de fin de carrière, de pénibilité,
mais ça a déjà
tout le monde,
laissé des traces,
à ce moment-là, ça apaise un peu le fait qu'il y ait le compromis. On est plus serein. Mais maintenant, il faut continuer sur ces négociations.
Mais Muret Pénicaud, le président de la République, avait fait campagne notamment sur l'apaisement. Est-ce que vous sentez aujourd'hui un pays apaisé?
C'est pas la clé se tourne pas en 24 heures. Mais je pense
mais ça
que
fait
le fait
deux ans,
que
on a des gilets jaunes cette année, on a une très longue grève sur les retraites. On se dit que
long,
c'est pas
jaunes.
Du tout que le dialogue social est abîmé, que le pays est abîmé, non?
C'est intéressant parce que toutes vos questions, c'est est-ce qu'on aurait pu faire mieux, en gros.
Oui.
Et moi, je vous dis peut-être qu'on aurait pu faire mieux, peut-être pas. Mais ce qui compte, c'est que maintenant, on peut.
Mais est-ce
réussir.
Que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez des regrets? On peut aussi avoir des regrets sur une tactique adoptée, sur la conduite d'une réforme. Est-ce que là, en l'occurrence, sur les 40 derniers jours, vous avez des regrets?
Non, parce que pour moi, c'est pas le sujet. Le sujet, le seul sujet, si on sera satisfait, en tant que, pas simplement membre du gouvernement, en tant que Français, c'est quand cette réforme aura été votée, qu'elle se mettra en place. Et que pour les Français, ça sera un plus. Et notamment pour les générations suivantes. Parce que si on ne fait pas cette réforme, et si on ne la fait pas avec le système à points universel, eh bien, ce que je peux vous dire une chose, c'est qu'on laisse une dette à nos enfants, et ça, c'est pas bien.
Guillaume Roquette, sur l'utilisation ou le recours éventuel au 49-3.
Oui, est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que vous l'excluez complètement qu'il y ait un vote sur cette loi en passant par le 49-3, donc sans débat approfondi à l'Assemblée?
Alors, je ne sais pas d'où vient cette idée saugrenue. On peut dire. Je n'ai jamais entendu le Premier ministre en parler et je n'y crois pas une seconde.
Donc il n'y aura pas de 49-3, ce sera.
Ça me paraît.
En revanche, c'est une procédure accélérée.
C'est
une procédure d'examen accélérée.
Oui, alors accélérer, c'est plusieurs mois, hein, donc dans le langage législatif. Donc c'est pas la sauvette, hein, accélérer dans le système français.
Mais qu'on ait bien compris.
C'est pas une loi d'urgence. Loi d'urgence, c'est ce que c'est avec Agnès Buzyn j'avais porté l'année dernière en 2 jours et demi. Mais ça, c'est exceptionnel dans l'histoire de la France.
Juste que les choses soient bien claires, en première lecture, on est bien d'accord que les parlementaires vont discuter d'un texte qui ne sera qu'un texte provisoire, puisqu'on sera toujours dans l'attente des conclusions de la conférence de financement. Donc on va faire siéger les parlementaires un peu pour rien.
Il y a une grande partie du texte qui ne sera pas modifié par les discussions sur l'équilibre financier.
Il manquera juste le financement, c'est quand même
pas rien. Mais,
anecdotique.
Mais je crois que, vous savez, on en discute avec les députés. Eux, ils s'inscrivent aussi dans la dynamique. C'est quoi la fabrique de la loi? C'est quelque chose de vivant dans lequel il faut un gouvernement, des parlements qui représentent les Français. Et puis, comme c'est une loi qui a des impacts sociaux, économiques très importants, il y a aussi les partenaires sociaux. En gros, il y a de la démocratie sociale et de la démocratie parlementaire et politique en même temps. Et on l'a vécu au moment des ordonnances travail. J'étais en discussion avec les partenaires sociaux. J'ai passé avec mon équipe 300 heures avec les partenaires sociaux en même temps qu'on était déjà au Parlement sur la loi d'habilitation des ordonnances. Eh bien, on peut aller aussi de l'un à l'autre. C'est aussi ça, la fabrique de la loi dans un monde social.
Vous dites qu'il y a démocratie sociale, démocratie parlementaire. Le référendum, ça peut être une des cartes dans ce dossier?
Alors, le référendum, vous avez vu dans l'histoire, c'est très bien un référendum pour poser quelques questions simples. Mais alors, pour tout un système, vous êtes à peu près sûr qu'on ne répond pas à la question qui est posée. Donc, ce n'est pas le bon instrument. Mais le Parlement, attendez, on va voter pour des députés et des sénateurs, c'est bien pour qu'ils fassent la loi, qu'ils votent la loi.
Quand sont légitimes. Donnez-nous juste le calendrier. À quand précisément l'adoption de cette réforme pour vous au Parlement et son application concrète?
Alors, la réforme, d'abord, sur la partie équilibre financier du système, la conférence de financement doit rendre ses conclusions fin avril pour que ça puisse être intégré à la deuxième lecture du texte. Le but, c'est que l'ensemble du texte soit voté avant cet été. Et alors, il y a des mesures qui s'appliquent plus rapidement que d'autres. Ça dépend vraiment des mesures. Et parmi les mesures, il y en a effectivement qui vont dépendre de la conférence de financement.
Alors, venons-en maintenant, justement, sur le financement. Guillaume Roquette et l'âge pivot.
Voilà, sur le fond du sujet, si on a bien compris, il n'y aura pas d'augmentation des cotisations pour financer les systèmes de retraite. Il n'y aura pas non plus de baisse des pensions parce que les syndicats n'en veulent pas. Et il n'y aura pas non plus d'âge pivot parce qu'on l'a retiré. Alors expliquez-nous comment vous faites pour revenir à l'équilibre si vous excluez ces trois possibilités.
Alors d'abord, je voudrais d'un mot dire pourquoi il faut un équilibre. Ce n'est pas un sujet budgétaire. C'est un sujet de solidarité entre les générations. La France, et on est très peu de pays dans ce cas-là, a opté depuis toujours, et on le confirme, pour un système de répartition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous, moi, tous ceux qui travaillent aujourd'hui, qui, par leur cotisation, payent les retraités, la retraite des retraités d'aujourd'hui, nos parents, les grands-parents, moi c'est plutôt les parents. Demain, on veut garder ce système de répartition, mais il faut être sûr que les générations suivantes, qui vont nous suivre, les plus jeunes, ne paieront que la retraite de ceux qui sont à ce moment-là à la retraite, et pas une dette en plus. En gros, laisser une dette là-dessus aux générations, c'est faire une solidarité intergénération qui n'est que dans un sens, et c'est vraiment fermer la porte aux jeunes. Alors, on veut que cette réforme, elle ouvre la porte aux jeunes. Vous savez, les jeunes, moi je vois des jeunes tout le temps, parce que j'en vois dans les missions locales, dans les CFA, les centres de formation d'apprentis, j'en vois tout le temps. Qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils croient qu'ils n'auront pas de retraite. Et ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose où ils auront leur retraite, et ils n'auront pas à payer pour ce qu'on n'aurait pas fait. Donc cette question d'équilibre financier, c'est pas de l'obsession budgétaire,
mais
c'est
alors, la pérennité du système. Muriel Pénicaud,
alors comment on fait?
Beaucoup d'options sont déjà sur
Alors comment on fait?
On a l'impression que c'est un peu une négociation à pistolet sur la tempe pour les syndicats.
Bah, si c'était le cas, ils auraient réagi différemment. Je connais assez pour le savoir.
Enfin, ils pourront toujours
En ce qui concerne cet équilibre financier, le Premier ministre, dans son courrier, dit qu'il ne faut pas augmenter le coût du travail et qu'il ne faut pas augmenter et qu'il ne faut pas baisser les pensions.
Il dit qu'il n'y a pas de hausse du coût du travail, mais il dit pas de hausse des cotisations.
Oui,
est-ce que ça veut dire que les hausses de cotisations sont une option possible?
Alors, le coût du travail, en tout cas, ne doit pas augmenter. Pourquoi? Parce que le coût du travail, c'est un effet direct sur l'emploi. Quand le coût du travail augmente, on perd de l'emploi.
Est-ce que vous pouvez me répondre sur les cotisations? Parce que c'est effectivement un point clair
pour nous. Le coût du travail, ça n'est pas... C'est en grande partie les cotisations, mais il peut y avoir d'autres sujets.
Est-ce que vous pouvez nous dire?
Et puis par ailleurs, il y a les sujets de fraude réserve.
Qu'on comprenne ce... il est très important. Le Premier ministre dit qu'il n'y aura pas de hausse du coût du travail. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Est-ce qu'il peut y avoir une hausse des cotisations ou pas?
Ce que je vais vous dire, c'est que si on pense que, avec les partenaires sociaux qui connaissent très bien le sujet, l'État qui connaît très bien le sujet, les experts qui connaissent encore mieux les aspects techniques, il nous faut 4 mois pour répondre complètement à cette question. C'est pas en 3 minutes ici
donc,
que je vais vous donner toutes les solutions.
Mais ce que vous pouvez nous dire, c'est que ce n'est pas exclu.
Du moment que le coût du travail n'augmente pas, toutes les solutions sont ouvertes à discuter. De même qu'on ne veut pas, l'autre limite, c'est qu'on ne veut pas baisser les pensions. On ne veut pas baisser le niveau
des
retraites.
Même si la CFDT vous dit qu'il y a des retraités qui sont aujourd'hui mieux lotis que certains actifs.
Vous
êtes traumatisé par la crise des Gilets jaunes, ça c'est impossible pour vous.
Non, c'est pas ça, c'est une question
de... dire, voilà, il y a des retraités aujourd'hui qui gagnent mieux leur vie que des actifs.
Ah bah, non, les retraités en moyenne gagnent plus que les actifs en France.
C'est un peu étrange. Vous dites comme la CFDT, mais en même temps, vous dites qu'on ne peut pas baisser les pensions.
Mais il ne faut pas pénaliser les retraités d'aujourd'hui pour autant.
C'est pas cohérent. Vous nous dites qu'ils gagnent mieux, mais on ne baisse pas leurs pensions.
Mais non, mais les retraités d'aujourd'hui, en moyenne, un retraité en moyenne, il y a des gros écarts, touche 103% de ce que touche quelqu'un qui travaille. C'est une bizarrerie française, je vous reconnais, entre générations. On ne va pas pénaliser ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. On ne touchera pas à leur retraite. Parce qu'il n'y a pas de raison. Eux, ils ont travaillé longtemps, ils ont cotisé dans un contexte. On ne va pas leur dire après coup, alors qu'ils sont à la retraite, on vous change votre retraite. C'est pas bien, ça.
J'ai pas compris en quoi c'est différent, les cotisations sociales et le coût du travail.
Le coût du travail, c'est plus global et donc ils vont en discuter. Il y a beaucoup de manières
de regarder ça. Comme quoi, on essaie de comprendre.
Il y a une astuce, vous ne direz pas laquelle.
Là, on est encore plus sujet, autant que les auditeurs et les spectateurs. Donc éclairez-nous.
Non, ce que je peux vous dire, c'est que il faut les trois choses importantes. C'est qu'il faut trouver un équilibre financier, parce que c'est pérenne. Il ne faut pas augmenter le coût du travail et il ne faut pas baisser les pensions des retraités.
Alors, est-ce qu'on peut augmenter la durée de cotisation, par exemple, et aller plus vite dans la réforme Touraine, puisqu'on devait avoir 43 annuités, pour être très précis, en 2035. Est-ce que ça peut être avant 2035 pour arriver à ces 43
annuités? Vous verrez au cours de débat qu'il y a énormément de leviers. Ce que je ne crois pas, c'est qu'il y aura un seul levier. Je suis sûre qu'il y aura un cocktail de mesures.
Et
parce que ça,
c'est
assez certain. Ça fait partie des choses qu'on peut discuter.
Mais
ça n'est que du court terme. Par contre, ça ne résout pas le problème long terme. Les réserves, elles ne se refont pas toutes seules.
Elles sont à 36 milliards aujourd'hui.
Là, on est bien d'accord qu'on est en train de réfléchir avant tout aussi comment compenser la suppression de l'âge pivot à court terme.
À partir du moment où le Premier ministre a dit on met tout sur la table, on discute, et s'il y a des solutions meilleures que le seul âge pivot ou âge d'équilibre, on sera ouvert. À ce moment-là, on est ouvert. Donc, il y a pas de... C'est pour ça que je vous ferme aucune porte, parce qu'il n'y en a aucune. Mais... du moment que les pensions ne baissent pas, que les collectivités.
Mais c'est parce que vous n'avez pas assez bossé que vous ouvrez cette nouvelle négociation.
Non.
Vous ne pouviez pas les trouver vous-même, alors, le gouvernement, ces financements.
Dans le dialogue social, il y a un moment donné où converger ensemble sur des choses, sur un cocktail, où il y a une palette d'outils possibles, ça a une valeur beaucoup plus grande que décider tout seul. C'est ce moment-là où on est. Moi, j'y crois. J'y crois parce que c'est toujours mieux de trouver des solutions ensemble. Mais il y a beaucoup d'outils. Et donc, quel est le dosage de chacun ? Lesquels on prendra, lesquels on ne prendra pas ? Je ne peux pas préjuger de 4 mois de discussion qui vont démarrer dans 15 jours.
Est-ce qu'il peut y avoir une augmentation du temps de travail hebdomadaire ?
Alors, ça, pour l'instant, personne ne l'a proposé, à ma connaissance.
Et vous non plus. Donc, on reste aux 35 heures.
Non, mais aujourd'hui, les 35 heures, c'est une référence.
Oui.
Mais en fait, il n'y a qu'un tiers des salariés qui travaillent à 35 heures tout à fait, puisque, en fait, on est en moyenne en France à 36 heures et quelques. Et avec les heures supplémentaires, en fait, le sujet, à mon avis, n'est pas le temps de travail hebdomadaire.
Est-ce qu'il peut être celui de l'augmentation des salaires ? Est-ce qu'il peut être celui de l'augmentation des salaires ? Est-ce que vous pensez qu'il faut que les entreprises augmentent les salaires, ce qui, mécaniquement,
il y a quelque chose qui est
le rendement des cotisations.
Le rendement des cotisations, je vais vous dire, ça, personne ne peut le décider par magie, mais il y a quand même deux choses qui contribuent beaucoup aux cotisations. Oui. La première, c'est l'emploi.
Oui.
À chaque fois que quelqu'un quitte le chômage et va en emploi, eh bien, c'est des cotisations en plus, c'est des coûts en moins dans l'assurance chômage. Donc, c'est un système. Donc, tous nos efforts, et on a commencé sur ce sujet, on a baissé de 1 point le chômage depuis 2 ans. C'est 300 000 demandeurs d'emploi en plus qui ont retrouvé un emploi, et on en a sous le pied. Donc, je crois que ça, c'est un effet. Et puis, il y a l'égalité homme-femme aussi, puisque aujourd'hui, on a 9% d'écart pour le même travail. Si on augmente de 9% les salaires des femmes, ce que, avec la loi pour la liberté de choisir son index professionnel, sa loi professionnelle et l'index égalité homme-femme, nous sommes en train de faire, eh bien, ça fait 9% de cotisation en plus du côté des femmes.
Mais il y a aussi l'augmentation des salaires. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'entreprise doit augmenter les salaires ?
Elle doit absolument augmenter les salaires des femmes pour qu'elles aient le même salaire des hommes.
Et augmenter les salaires.
De plus pour la moitié de la population.
Bruno Le Maire dit il faut augmenter les salaires. Vous ne dites pas globalement il faut augmenter les salaires.
Les salaires augmentent, puisqu'on est à 2,4% d'augmentation cette année. D'ailleurs, les salaires augmentent beaucoup plus que l'inflation, je voulais le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets en disant mais la valeur du point va être indexée sur les salaires. Donc, et ils ont peur que ça soit moins bien que les prix, l'inflation. Non, en fait, c'est beaucoup mieux.
Donc vous êtes plutôt en phase avec Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui a entendu Bruno Le Maire demander donc aux entreprises un effort en augmentant les salaires, et qui dit aujourd'hui que quand il entend cela, eh bien il demande aux ministres comme Bruno Le Maire de balayer devant leur porte et que l'État employeur fasse son job.
En fait, moi je suis d'accord avec tous ceux qui se battent pour l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, du côté patronal et syndical, et du gouvernement. Et avec ça, vous allez voir, on va faire un grand progrès et d'équité, de performance dans les entreprises, et ça va nous aider pour les retraites.
Adrien Gindre.
On a bien vu que vous étiez très confiante sur cette conférence de financement, sur sa capacité à déboucher. Alors, il y en a qui sont plus inquiets. La CGT craint que vous refassiez le coût de l'assurance chômage. Alors, je vais poser la question de manière plus précise. Qu'est-ce qui se passe si jamais, à l'issue de la conférence de financement, il y a soit un accord qui n'est pas trouvé, soit un accord qui ne vous convient pas ?
Alors, le Premier ministre l'a dit clairement. Il faut qu'on trouve une solution pour l'équilibre financier, pour les raisons que j'évoquais, parce que sinon, on met le fardeau sur les générations suivantes. Donc de toute façon, il faut une solution. Soit la conférence de financement permet de trouver la solution, ou probablement, très probablement, le cocktail de solutions. Eh bien, c'est la solution qui pourra être reprise dans la loi. Soit il n'y arrive pas, il faudra que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il l'a dit, on les prendra à ce moment-là.
Et ça voudra dire quoi ?
C'est pour ça que l'âge pivot est retiré provisoirement, parce qu'il faut bien une mesure. Alors si la conférence de financement n'aboutit pas, ça n'empêche pas de prendre des idées qui ont été débattues dans la conférence, mais c'est mieux si elle aboutit.
La seule alternative aux conclusions de la conférence de financement, c'est l'âge pivot. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'accord ou un accord qui ne vous convient pas, c'est le retour.
Eh bien, ça sera au Premier ministre de terminer à ce moment-là, si on n'y arrivait pas, mais moi je ne me mets pas dans cette perspective-là. Qu'est-ce qui peut être fait, âge pivot et ou autre.
Mais vous avouez qu'ils sont quand même traumatisés par cette affaire de l'assurance chômage où ils avaient trouvé un accord, vous leur en avez imposé un autre, Muriel Pénicaud.
Alors, ils n'ont pas trouvé d'accord, ils n'ont pas trouvé d'accord. Là, je m'excuse de vous corriger. Ils n'ont pas trouvé d'accord parce qu'ils ont arrêté la négociation en disant on ne trouve pas un accord. Donc l'État était obligé de prendre les
parlementaires. C'est pas leur version des faits. Guillaume
Roquette. Attendez, alors je m'excuse. Regardez les faits. Juridiquement, ils n'ont pas fait d'accord. Il n'y a aucun moment donné où ils ont signé un accord.
Parce qu'ils contestaient le cadre que vous aviez fixé.
Ils ont négocié pendant 4 mois, donc ils avaient accepté le cadre. Après, c'était pas un cadre facile, ça je suis d'accord pour le dire. Mais ils avaient accepté le cadre, ils n'ont pas abouti. C'est pas, ça arrive, c'est pas.
Mais il y aura peut-être un retour de la Spitfire.
Donc là, mais il faut aboutir pour qu'on puisse en tenir compte pleinement. Il faut aboutir.
Guillaume Roquette.
Gérard Larcher, le président du Sénat, dit ce matin, il n'y a plus de réforme parce que dès lors que il n'y a pas de financement attaché à cette réforme, elle perd de sa substance.
Alors, il y a deux choses qui m'étonnent. Enfin, une qui m'étonne, une qui me choque.
Lui-même
la première chose qui m'étonne, chose qui m'étonne, oui, il y a quelques années, et il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que certains vont dire, mais ça sert à rien, ce compromis, ça ne vaut rien, et lui, patatras, il n'y a plus de réforme. Bon, la chose qui me choque, c'est qu'est-ce qu'il propose ? Il propose, il dit, il n'y a pas de réforme parce que le gouvernement ne met pas l'âge légal à 65 ans. Alors, mettre l'âge légal à 65 ans, moi, ça me choquerait. C'est quoi l'âge légal à 65 ans ? Ça veut dire que personne ne part avant 65 ans, vous vous rendez compte ? Même ceux qui ont eu des carrières longues, qui ont travaillé à 16 ou 18 ans, il y en a beaucoup, et dans l'artisanat, dans l'apprentissage, même ceux, ou ceux qui ont dû payer leurs études en travaillant, même ceux qui ont eu des carrières pénibles, des métiers pénibles, et ça, c'est des choses sur lesquelles on veut progresser, sur la prise en compte de la pénibilité, parce que même s'il y a un âge d'équilibre, bien sûr qu'un manutentionnaire, une aide-soignante, il y a des travaux difficiles sur lesquels il faut pouvoir partir
avant. Oui, d'ailleurs, la droite dit 65 ans plus la pénibilité.
Mais âge légal, ce que propose Gérard Larcher, ce qui me choque, c'est qu'il dit... Même si vous avez un travail pénible, même si vous avez commencé à travailler 16 ans, vous ne partirez pas avant 65 ans. Eh bien moi, ce n'est pas de mon projet, ce n'est pas le projet du gouvernement.
Vous avez fait des concessions pour aboutir à un accord sur l'âge pivot. Est-ce que vous allez faire des concessions pour aboutir à un accord sur la pénibilité ?
Alors, je reviens à mon sujet. On ne fait pas des concessions, on fait un compromis. Un compromis, ça veut dire que des deux côtés...
On fait des concessions pour aboutir à un compromis, non ?
Non, bah, des deux côtés alors.
Alors, je vais vous poser la question, si vous voulez, comme ça.
Ce qui est intéressant, c'est
le compromis. Est-ce que vous êtes prêt, à condition que les syndicats en fassent aussi, à faire des concessions sur la pénibilité ?
Mais évidemment qu'on va progresser sur la pénibilité, sinon on n'ouvrirait pas... Moi, je n'ouvrirais pas des discussions pour rien faire.
Et
ça
par exemple,
pas de sens.
Rétablir les critères de pénibilité que vous
alors,
avez supprimés ?
La pénibilité,
ce qui est demandé
peut-être.
Par certains syndicats.
Comment ça marche, la pénibilité ? Il y a 10 critères qui sont reconnus comme des critères de pénibilité. Alors c'est le travail de nuit, les gestes répétitifs, le bruit, les charges lourdes. Il y a toute une série de critères qui sont pris en compte. Il y en a 6 qui sont pris d'une façon et 4 d'une autre. On ne les a jamais retirés, ça c'est faux. On les a traités différemment. Il y a 6 critères
qui
sont pris...
Mais d'une manière qui ne convient pas à certains syndicats.
Je m'excuse, c'est un peu compliqué, mais il faut que je l'explique pour que ça soit clair. Il y a des critères, c'est vous gagnez des points. C'est-à-dire que si vous travaillez X nuits dans l'année... En travail de nuit, on sait que ça a un effet sur la santé, ben vous avez des points de pénibilité qui, à la fin, vous permettront soit d'avoir une formation pour vous reconvertir, soit d'aller en temps partiel à la fin de votre carrière, soit de partir plus tôt. Ça, c'est un système de points. Il y a aujourd'hui 1 300 000 Français qui sont en train d'accumuler des points. Et sur le travail de nuit, on l'a dit, on est prêt d'ailleurs à regarder si on peut baisser le seuil pour que ça ouvre à plus de personnes. Et on veut aussi le mettre dans le secteur public.
Muriel Pénicaud,
Et puis après, il y avait 4 autres critères qui étaient inapplicables.
Le port de charges lourdes, les postures pénibles.
Pourquoi c'est inapplicable ?
C'est ça que vous avez du mal à faire entendre.
Merci de me poser la question.
Non, mais parce que vous avez beau le dire, les Français vous disent d'office, quand vous avez un métier qui est compliqué et qui est difficile, vous pouvez avoir des points supplémentaires et une prise en compte de la pénibilité.
Oui, on l'a pris en compte, mais autrement. Pourquoi ? Parce qu'un artisan, un agriculteur, un patron de petite entreprise, ce que lui demandait la loi, qui n'a jamais marché d'ailleurs, elle n'a jamais été appliquée, c'était qu'il fallait qu'il mesure jour par jour, heure par heure, combien de poids de charges lourdes le salarié, monsieur ou madame X, avait porté. C'est inapplicable. Par contre, ce qu'on a fait, on a dit, si vous avez eu des charges lourdes, des postures pénibles, à ce moment-là, un examen médical, c'est un médecin de la Sécurité sociale, s'il reconnaît votre incapacité à 10%, vous pouvez partir...
On verra si vous
attendez, j'ai pas fini. Il vous met partir 2 ans plus tôt, et ça y est, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont parties. Sinon, dans le système d'avant, ils attendaient 2037, je vous signale. Et là, il y a des personnes aujourd'hui qui partent parce que on reconnaît cette pénibilité. Alors, et là-dessus, on peut aussi progresser parce que je pense que les branches peuvent aller plus loin. Et ça fait partie des sujets que nous discutons avec les partenaires.
Guillaume Roquette, la question en plus très rapidement.
Vous avez lancé une application sur Internet qui s'appelle Mon compte formation pour savoir les formations auxquelles on a droit. La première demande, si j'ai bien lu, c'est le permis de conduire. Est-ce que c'est la vocation de la formation professionnelle de financer le permis de conduire des Français ?
Alors d'abord, je crois qu'on peut être très fier en tant que Français d'être le premier pays au monde où on crée un vrai droit à la formation pour tous les salariés. Un vrai droit, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'autorisation à demander. Vous avez un compte qui s'appelle Mon compte formation. Vous allez avec votre numéro de sécurité sociale, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il y en a déjà 700 000 qui ont chargé en 6 semaines. Vous avez des euros qui sont crédités chaque année. En moyenne, on est déjà à 1040 euros par personne. Et là-dessus, vous avez des centaines de milliers d'offres de formation et vous pouvez faire toutes les formations qui ont une valeur sur le CV. C'est le critère que nous avons pris. C'est-à-dire tout ce qui est les diplômes, les titres professionnels, les certifications professionnelles. Et oui, nous avons mis le permis B, qui n'est pas, a priori, un diplôme professionnel. Enfin, je crois que pour 95% des Français, tout le monde comprend parfaitement que donc, le permis B sur un CV, ça fait la différence et qu'il y a beaucoup d'emplois que vous ne pouvez pas prendre. Aujourd'hui, chez Pôle emploi, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas prendre un emploi parce qu'ils n'ont pas le permis
Muriel
B.
Pénico, donc, cette application est donc, vous avez c'est des juste. Chiffres, enfin, il y a une augmentation du nombre de téléchargements et de formations.
Ah non, mais c'est incroyable. En 6 semaines, on est à 780 000 chargements, téléchargements. Et il y a déjà 50 000 personnes qui sont inscrites dans les formations. Ça part très vite, parce que je crois qu'il y a une vraie aspiration. D'abord parce que parfois, on fait un métier qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime plus, ou parce qu'on veut une progression, ou parce qu'on veut se reconvertir. Et les principales demandes aujourd'hui, c'est permis B, c'est les langues. Le TOEIC en anglais, les langues sont très demandées. L'informatique, le bilan de compétences, et puis aussi tout ce qui est le CACES, c'est le permis cariste qui permet d'accéder à l'emploi.
C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Muriel Pénicaud, bonjour. Samuel Thomas, président de la Maison des Potes. Depuis 8 mois, le gouvernement dispose d'une liste d'une quinzaine de très grandes entreprises épinglées pour discrimination raciale à l'embauche suite à des opérations de testing réalisées à la demande du gouvernement. Le président de la République avait promis de faire du name and shame et de mobiliser l'inspection du travail suite à ces opérations de testing. Alors pourquoi, depuis 8 mois, l'identité de ces entreprises n'est toujours pas révélée? Et avez-vous mobilisé l'inspection du travail pour faire des enquêtes suite à ces opérations de testing?
Alors, cette opération de testing a été faite sur les 120 entreprises du SBF 120, c'est-à-dire les 120 plus grosses entreprises, et a conclu qu'il y a certes... Et c'est un testing sur quoi? C'est est-ce qu'il y a une discrimination en fonction du patronyme? Quand c'est un patronyme maghrébin, est-ce qu'il y a discrimination? Donc, il y a beaucoup d'entreprises où il n'y a pas de discrimination. Il y en a.
Est-ce que vous allez les désigner?
Alors, aujourd'hui, donc, cette enquête qui avait été lancée par Julien de Normandie, on a convenu au niveau du gouvernement que, on est retourné vers les entreprises concernées. Donc moi, c'est les équipes du ministère du Travail en région qui vont voir toutes les entreprises concernées pour vérifier d'abord, sur le plan méthodologique, il y a quelques sujets, les experts, je vous passe ça, mais ils débattent de la méthodologie pour vérifier ça, mais surtout leur dire, maintenant vous avez très peu de temps pour réagir et agir.
Combien de
et
temps
on refera.
Combien de
bien,
temps
on est en train de voir sur l'ampleur des entreprises, il y a celles, en combien de temps le faire, il faut qu'on refasse un testing pour vérifier.
À force de faire
la deuxième
un testing
fois,
et testing,
pas
à un moment donné, il faut aussi agir et vous dites, voilà.
Attendez,
vous avez pris le cas du name and shame.
À partir du moment où vous avez la mesure, vous agissez. Je reviens à l'index égalité professionnelle. Là, on a vu qu'il y a 167 entreprises sur 7000 qui respectent l'égalité hommes-femmes. Et qu'il y en a 17% en liste rouge. Toutes, elles sont en train d'être contactées. Je peux vous dire qu'elles sont en train de bouger. Quand vous
donc
allez
vous
voir
allez
une entreprise en disant...
Et si elles répondent pas,
on a la
quoi,
preuve que vous discriminez. Et donc, eh bien, il faut qu'on refasse le testing. Donc, on est en train de voir avec les experts la date dans quelques
donc
mois.
On refait un
et là,
testing.
Par contre... Bon. Non. Mais entre-temps, celles qui n'ont pas progressé, je vais vous dire, on ira plus vite.
Vous
mais
les convoquerez. Elles sont toutes en train vous de les convoquerez.
Non, au mais ministère. C'est déjà fait. Mes services sont en train de les voir. Il y a un moment donné, je les convoquerai, oui.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury. Question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour Muriel Pénicaud. Alors,
bonjour.
Cette semaine, les sociétés du CAC 40 ont redistribué plus de 60 milliards d'euros à leurs actionnaires. L'information est sortie cette semaine, donc c'était pour les chiffres de 2019. Elle a énormément fait parler les internautes, sachant que le record de 2007, qui était de 57 milliards, lui a été battu. Est-ce que ce n'est pas là, d'après vous, qu'il faut trouver de l'argent pour les retraites?
Alors,
est-ce que c'est une piste que vous pouvez envisager?
Alors, il y a deux sujets dans votre question pour moi. Un sujet qui est vraiment sur le partage de la valeur. Je vais y revenir. Mais il y a un sujet quand même, juste pour expliquer que le CAC 40, ce sont que des entreprises internationales. Donc, les profits et les bénéfices sont générés par l'ensemble des salariés dans l'ensemble des pays. Et souvent, la France n'est pas majoritaire. Et elle est redistribuée aux investisseurs dans l'ensemble des pays. Juste pour dire que le sujet est légitime, mais c'est un sujet mondiale. Et d'ailleurs, moi, je milite, et j'irai à Davos pour militer là-dessus, sur un capitalisme responsable où il y a du partage de la valeur, on lutte contre les inégalités et aussi pour l'environnement.
Mais ça vous paraît...
Et donc, mais à court terme, je pense que le sujet, c'est quand même le partage de la valeur. En gros, le capital a besoin d'être rémunéré, sinon plus personne ne mettrait du capital pour investir dans les entreprises. Et d'ailleurs, nous-mêmes, quand nous allons à la... nous avons un compte épargne à la banque ou une assurance vie, c'est placé. Donc, il faut bien que le capital soit rémunéré. Mais le travail aussi, il faut que ça soit équilibré. Et c'est pour ça que dans la loi PACTE, Bruno Le Maire, et on a travaillé ensemble là-dessus, a ouvert les vannes pour qu'on puisse développer notamment l'intéressement en participation, notamment dans les petites entreprises, en supprimant le forfait social qui va permettre de
faire. Autre question sur Carlos Ghosn, Marie-Pierre Abad.
Oui, Carlos Ghosn réclame sa retraite chapeau à Renault. Elle s'élève à 775 000 euros par an. Et l'ancien PDG l'avait négocié, pour préciser, avant son arrestation au Japon. Mais Renault ne veut rien entendre pour l'entreprise. Carlos Ghosn a démissionné. Donc, d'après la loi, il n'a pas le droit à exiger une retraite chapeau. Est-ce que, d'après vous, il est dans son bon droit d'exiger sa retraite chapeau, ou alors est-ce que ça vous choque?
Alors, l'État est actionnaire de Renault et avec le conseil d'administration, on jugeait qu'il n'avait pas droit à sa retraite chapeau puisqu'il a quitté avant la fin de ses fonctions. Tout ça est un peu ridicule, je pense, de demander la retraite chapeau dans ce contexte, c'est un peu indécent. Mais bon, c'est un point de vue personnel.
Alors, une dernière question sur un employé d'un hypermarché de Leclerc.
Oui.
S'est suicidé.
Oui, alors un employé donc, d'un hypermarché, Leclerc, qui est aussi délégué syndical FO, s'est suicidé. C'était hier matin, sur son lieu de travail. Il a laissé une lettre et dans cette lettre, il dénonce ses conditions de travail qui étaient insoutenables. Pourquoi ne pas convoquer Leclerc et son PDG au ministère pour essayer de comprendre ce qui s'est passé?
Le sujet des accidents du travail et plus gravement des suicides est un sujet qu'on suit évidemment très près au ministère du Travail et systématiquement on voit les entreprises.
Je voudrais
dire
que
c'est un sujet qui pour moi est très important. En 2010, avec Henri Lachmann qui était président du conseil de surveillance de Schneider Electric et Christian Larose qui était un responsable CGT, président d'une des fédérations et vice-président du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, on avait fait un rapport sur... suite au suicide de France Télécom pour combattre ça et pour prévenir les risques psychosociaux. C'est un rapport qui s'appelle Bien-être et efficacité au travail qui est en ligne, qui fait 10 pages et où on voit qu'il y a beaucoup de sujets d'organisation, de management qui ont un impact sur les risques psychosociaux. Je ne peux évidemment pas me prononcer sur une situation personnelle qui est douloureuse et sur laquelle je n'ai pas encore vu l'entreprise. Mais je pense que c'est un sujet important. Je crois qu'on peut progresser en management, en organisation dans nos entreprises pour prévenir les risques psychosociaux et ce type de situation.
Merci Muriel Péricot, c'est la fin de cette première partie. Donc, dans la deuxième partie, vous serez face à Laurent Escure, secrétaire général du syndicat UNSA, pour un débat sur cette réforme des retraites. A tout de suite, après une courte pause.
Jury RTL Le Figaro LCI. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, face à Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Retour donc sur ce plateau avec Laurent Escure. Bonjour Laurent Escure, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes fait connaître à la faveur de cette crise sociale. Vous êtes donc à la tête de l'UNSA, sixième syndicat en nombre d'adhérents, mais premier syndicat RATP. Et deuxième à la SNCF, vous débattez donc face à la ministre du Travail. Laurent Escure, première question, parce que on a entendu la ministre du Travail en début d'émission appeler à la fin de la grève. Est-ce que vous appelez vos troupes à cesser le mouvement à la RATP, notamment puisque vous y êtes premier syndicat?
Alors, nous, à l'UNSA, on n'était pas demandeurs de cette réforme. Le signe qui a été fait par le gouvernement, qui a permis un compromis sur les voies de l'équilibre en retirant l'âge pivot, donc je veux dire que ce n'est pas un retrait provisoire, puisque la lettre du Premier ministre, on l'a calibrée dans les échanges, était très claire. Il est dit dans le point 7 que cette mesure est retirée, qu'il avait toute confiance dans le compromis qu'on pouvait dégager entre gouvernement et organisation patronale et syndicats, que chacun devrait faire des efforts, mais également qu'à défaut, il prendrait ses responsabilités. Mmh. Mais il y a une nuance, parce qu'il dit « je prendrai mes responsabilités en m'inspirant sur les débats contenus dans la conférence et en prenant les mesures ». Et ce pluriel au mot « mesure » est important par rapport au risque que nous avions pointé d'avoir le scénario assurance chômage. Donc on a cet élément d'apaisement qui nous permet de discuter plus sereinement, à la fois de l'équilibre financier, mais également des compensations, des garanties.
Alors vous allez en parler avec Emmanuel Macron, il va vous répondre. Mais sur la grève, est-ce que ça veut dire pour autant, vous dites, bah, c'est pas suffisant pour qu'on appelle à, une,
non, mais
à la fin du mouvement?
L'UNSA a été à la fois dans des mobilisations pour créer du rapport de force, parce que je reviens une seconde sur cet âge pivot. J'entends certains syndicats qui sont sur une grève totale et sur un rapport de force avec le tout ou rien, le retrait, dire dans la même phrase, à la fois ce retrait d'âge pivot, ce serait un enfumage, et le mettre au crédit de leur mobilisation. Donc il faudrait savoir si c'est une victoire ou si c'est un enfumage. Nous, on considère que c'est une avancée qui permet de discuter. Concernant la mobilisation, on a des secteurs à l'UNSA qui s'étaient mobilisés pour obtenir le respect de leur contrat social. C'est l'objectif à la RATP, à la SNCF. Un grand nombre d'avancées ont été obtenues. Maintenant, les salariés de ces entreprises sont en train de les regarder précisément. Et vous avez pu constater que le trafic dans ces entreprises est en train de s'améliorer, sans doute parce que les avancées UNSA que nous avions obtenues commencent à être comprises. Mais il reste encore des choses à travailler sur ce sujet, comme sur d'autres professions, je pense notamment aux fonctionnaires territoriaux.
Vous l'entendez, Muriel Pénicaud, Laurent Lescure, que lui répondez-vous? Rien n'est acquis, semble dire... Dit Laurent Lescure. C'est que le début.
Bonjour Laurent Lescure.
Bonjour Madame la Ministre.
Et non, je crois que ce qui est clair, c'est qu'on est à une étape clé. Il y avait un compromis qui a apaisé, qui permet un dialogue maintenant constructif. Et maintenant, il y a beaucoup de solutions à améliorer ou à trouver sur le sujet de l'équilibre, mais aussi sur la pénibilité, sur le minimum contributif, sur l'emploi des seniors, sur la gestion des fins de carrière, sur les retraites progressives. On a beaucoup de choses à discuter. Ce n'est pas un point d'aboutissement. C'est un point de passage qui permet d'aller vers une sortie de crise, qui permet d'être dans un mode constructif ensemble, mais il y a encore beaucoup de boulot.
Il y a quand même un âge d'équilibre, Laurent Lescure, à terme. Est-ce que
je vais revenir là-dessus si...
C'est pas rien. Dans la lettre du Premier ministre, il est dit qu'il y aura un âge d'équilibre, quoi qu'il arrive, après 2027.
Si je veux lever l'ambiguïté, il est dit qu'il y aurait dans le futur système de retraite, qui grâce à l'UNSA épargne un certain nombre de générations, donc commencera pleinement qu'en 2037, il est dit qu'en 2037, dans le futur système de retraite par points, il y aurait un âge d'équilibre. Mais je vous fais remarquer, sans autre précision, ni d'âge, ni de la façon, mais je vous fais remarquer qu'aujourd'hui, dans les régimes actuels, il y a un âge d'équilibre. Ça s'appelle les trimestres et les annuités. Et ces trimestres et les annuités peuvent varier, et la valeur des trimestres et des annuités peuvent varier. Donc la question de l'équilibre, y compris en lien avec l'âge, existe déjà, ce n'est pas une nouveauté.
Donc vous êtes d'accord avec cet âge d'équilibre postérieur à 2027?
Qu'est-ce que c'est un âge d'équilibre? C'est un âge repère qui permet collectivement que le système soit financé, et qui est le repère par rapport à laquelle, alors on compte en points, on compte en cotisations, en années, on compte... De toute façon, il faut compter d'une façon, tout le monde veut savoir... Quand est-ce qu'il pourra partir à la retraite? Donc la notion d'âge d'équilibre, elle n'est pas nouvelle. Ce qu'il
ça
faut, c'est que le
pivot.
Système soit équilibré.
Pas pour nous.
Et puis que par contre, cet âge d'équilibre, il y a quand même de toute façon des exceptions, c'est très important. Ceux qui ont des métiers pénibles, qui font des carrières longues, c'est normal qu'ils partent plutôt que les autres. Je suis désolée, mais un manutentionnaire,
un couvreur,
j'y tiens aussi, qui partent pas au même moment que un cadre, même si ça peut être pénible aussi. Enfin, c'est pas les mêmes conditions, notamment sur la santé. Eh bien, c'est normal qu'on parte pas au même âge. Par contre, l'ensemble du système doit être équilibré. Et donc, il y avait un âge d'équilibre du système pour ne pas pénaliser les plus jeunes.
J'ai aucune peine à dire que sur l'équilibre, j'ai aucune peine à dire que le système doit être équilibré. Et le compromis qu'on a trouvé pour trouver une solution, pour discuter, tient aussi à ça. Tout simplement parce qu'un régime par répartition, les 42 actuels qui vont durer jusqu'en 2037, le nouveau qui va commencer en 2022, devront être équilibrés. Sinon, on prend le risque d'une banqueroute et on tombe soit dans la capitalisation, soit pour certains qui réclament des recettes magiques fiscalisées, on tombe dans un système étatisé. Et moi, je ne veux pas que les retraites deviennent un système de protection sociale étatisée où les parlementaires, quelle que soit la majorité, voteraient chaque année le montant des pensions. Donc un système par répartition doit être équilibré, on n'a pas de peine à le dire. En revanche, on veut que les efforts soient partagés, on a des propositions à faire que je peux
alors,
avancer.
Parce que la ministre dit, et le Premier ministre a dit, pas de baisse des pensions et pas d'augmentation des cotisations. Est-ce que vous êtes sur cette
ligne? Non, pas d'augmentation du coût du travail.
Alors,
il y a une nuance.
Alors, est-ce que vous êtes pour une augmentation des cotisations, Laurent Lescure, et quelle proposition vous faites à Muriel Pénicaud?
Je vais en faire plusieurs. D'abord, la trajectoire d'équilibre pour 2027, puisque c'est ça qui était la première étape, en cumulé, je crois que c'est un besoin de 46 milliards. en cumulé sur plusieurs années. On a un fonds de réserve qui n'est pas captif de 30 milliards. On peut prendre une partie pour cet équilibre dans ce fonds de réserve. On a dès 2024 une contribution sociale qui va s'éteindre, mais qu'on peut laisser, qui sera donc indolore, dont on voudrait que la majorité, 7 à 9 milliards, serve à financer la dépendance. Mais on pourrait prendre une partie de cette...
Vous parlez de la CRDS.
Exactement. De cette cotisation à hauteur de 1,5 milliards, ce qui sur plusieurs années permettrait d'avoir aussi un complément. On pourrait avoir des cotisations pour les très hauts revenus de 10 000 euros par mois qui pourraient contribuer à, là aussi, un équilibre. On pourrait avoir, et on demande un geste des employeurs, j'en ai deux précisément.
Alors juste, pardon, d'abord, Muriel Pénicaud, sur ces deux propositions, est-ce que vous êtes sur taxer davantage les salaires au-dessus de 10 000 euros et laisser pérenniser la contribution de remboursement de la dette sociale pour récupérer cet argent en direction des retraites? Est-ce que très concrètement, vous dites oui?
La discussion qui s'engage, elle montre une chose, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses à débattre. C'est pour ça que 4 mois, ça va être intense. Parce qu'il faut discuter tout ça, il faut simuler les effets, il faut simuler les avantages, les inconvénients. Est-ce qu'il y a des gagnants, des perdants? Combien ça rapporte?
Mais vous ne dites pas non. Donc, sur ces deux items-là, bah,
au
précisément.
Stade, alors, on ne dit non.
Qu'est-ce que
à
vous
rien,
dites à Laurent Escure?
Parce que la discussion va démarrer dans 10 jours avec les organisations syndicales, patronales, le gouvernement et des experts. Et donc, il faut que ces discussions aient lieu. Mmh. Donc, il faut évidemment pas... ça serait, à mon avis, contre-productif pour moi de dire aujourd'hui oui, non, oui, non. Non, il faut
je
travailler tout ça.
Je comprends
tout à
fait.
Il n'y a rien exclu. Alors, et comme je le disais, je suis sûr qu'il y aura un cocktail de mesures et pas une seule mesure.
Tant
que,
mieux.
D'ailleurs,
le mot cocktail, vous l'avez utilisé en décembre. Je suis ravi qu'il fasse Flores.
Ça vient un peu tardivement pour vous, cette réponse sur
un
le
peu,
cocktail.
Mais je veux continuer sur les solutions. Parce que nous, à l'UNSA, on veut être le syndicat, non pas le syndicat des problèmes, mais le syndicat des solutions. On le porte depuis longtemps. On a obtenu des avancées dès le 12 décembre. Malheureusement, il y a eu ce chiffon rouge de l'âge pivot, notamment sur la revalorisation des enseignants qui vont être pénalisés. On sait qu'on va avoir un plan de 10 milliards qui va permettre de revaloriser en plusieurs années de plusieurs centaines d'euros les enseignants qui est sur la table. On a des choses encore à gagner sur les fonctionnaires territoriaux. Je le disais, j'insiste, parce qu'il y a des élus politiques qui viennent faire des commentaires sur les retraites, mais qui sont aussi des employeurs dans leur collectivité. Et certains fonctionnaires à bas revenus dans les collectivités locales ne sont pas forcément très bien payés en primes et en indemnités. Mais on va, s'ils ne regardent pas dans leurs services avant les municipales, nous on va le faire pour regarder qui traite bien, notamment ceux qui ont des petits salaires. On a eu des solutions, là on en a d'autres que je veux pointer, et qui est en lien avec le début de votre émission. Côté patronal, on demande qu'il y ait un effort, peut-être en cotisation, indépendamment de la question du coût du travail, sans doute en cotisation, mais il y a un autre effort que le patronat peut faire. Avec l'aide du gouvernement, c'est sur les fins de carrière. Aujourd'hui, on a des personnes qui, à l'abord de la retraite, sont au chômage. Et finalement, on a un paradoxe, c'est qu'une partie de la pré-retraite est financée par l'assurance chômage. Donc on pourrait aussi avoir une bascule d'un certain nombre de financements avec un encouragement aux employeurs pour qu'ils maintiennent des salariés seniors dans l'emploi, ce qui ferait des cotisations qui permettraient l'équilibre financier et qui permettrait par ailleurs un partage d'expérience et de compétences pour des nouvelles générations.
Alors là-dessus,
C'est à l'ordre du jour, effectivement, de notre discussion sur l'emploi des seniors qu'on reprend. On a commencé mardi dernier et on se revoit mardi là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation paradoxale en France. On dit, voilà, il faut travailler plus, mais en gros, les deux catégories qui sont le plus exclues du marché du travail, c'est qui ? Les jeunes et les seniors. C'est comme si, en gros, vous pouviez travailler entre 30 et 50 ans, mais avant, on vous dit, vous n'avez pas assez d'expérience, et après, vous en avez trop. Enfin, je caricature, mais c'est l'effet statistique. Alors, le taux de chômage des seniors est plus faible que la moyenne de la population, il est de 6%. Mais tout le monde peut le voir, et ça se retrouve dans le chômage de longue durée, que si vous arrivez au chômage après 55 ou 60 ans, c'est extrêmement difficile de retrouver un emploi. Donc il y a une vraie barrière au retour à l'emploi qui pour les seniors. Ça, c'est évidemment douloureux pour les personnes concernées. Ça les amène à être à l'assurance chômage, mais avec des revenus moindres, et finir finalement leur carrière d'une façon...
Donc vous pouvez trouver un accord, un compromis.
Et là, il y a de la marge de manœuvre, parce qu'effectivement, bizarrement, on ne le sait jamais, mais l'assurance chômage fait partie des caisses de pré-retraite dans ce pays, par effet, parce qu'on ne laisse pas tomber les gens. Mais je pense que, et j'ai vu que Geoffroy Roux-de-Bézieux ce matin le disait, ils étaient prêts à bouger sur l'emploi des seniors. Je crois qu'il faut qu'on soit vigoureux là-dessus. Pourquoi ? Ce n'est pas simplement un sujet financier, mais je crois que les personnes expérimentées ont beaucoup à apporter aux entreprises, aux associations, dans les collectivités, partout. Et il faut que leur valeur soit reconnue.
Alors, à vous entendre, et Laurence Cure, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous empêcherait, est-ce que vous avez des inquiétudes, qu'est-ce qui vous empêcherait de trouver un accord d'ici fin avril avec le gouvernement ?
Moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus.
Aucune.
J'avais proposé à la sortie de Matignon, avant que la lettre soit connue, que, pour une fois, dans la tradition française, on ait cette culture de compromis, voire même qu'on ait une obligation de compromis, une obligation de résultat pour un compromis. Ça veut juste dire que les trois parties doivent faire des efforts et bouger. Et donc j'espère que tout le monde bougera, dans le sens qu'on a indiqué.
Mais est-ce que ce qui s'était passé sur l'assurance chômage nous pose la question?
Justement, c'est pour ça qu'on voulait éviter ce scénario que je résume en disant on nous tend la main et en même temps on nous tord le bras. Donc on voulait éviter ce scénario et donc on a bien calé les éléments qui permettaient de déboucher sur ce compromis, de retrait de l'âge pivot et de trouver une conférence de financement où la discussion serait loyale. Donc on va y travailler. Si vous permettez, je voudrais dire un mot sur la pénibilité. Parce que on en a parlé rapidement, mais il y a des critères qui ne sont pas encore pris en compte et qui ne le sont que par réparation. Faut-il attendre que les gens soient à 10% d'incapacité pour qu'ils soient valorisés, pour leur donc casser dans leur travail? Je vais prendre un exemple. Dans la manutention, c'est-à-dire les charges lourdes, on dit que c'est pas facile de le mesurer. On peut faire des choses dans les branches, on pourra en discuter, vous l'avez dit. Mais quand même, les déménageurs, quand on prend les métiers, les déménageurs, quotidiennement, ils déménagent pas que des petites boîtes de confettis ou des peluches. Mmh. On sait que c'est un métier répétitif où ils portent des charges lourdes. J'ai moi-même, dans des jobs, quand j'étais étudiant, fait un travail pendant un mois à la Cernam, où sur un tapis roulant, on voit défiler des cartons de différents poids, de différentes tailles, et où on a des camions à côté de nous, où on a des numéros de département. Alors, c'est un métier qui est répétitif, fatigant. D'ailleurs, je salue le courage de ceux qui l'exercent. On pourrait dire que c'est pénible et qu'on pourrait trouver des compensations.
C'est vrai que tout à l'heure, vous avez exclu
l'intégrer
dans les 10 critères.
Non, c'est pas ça que j'ai dit. Bon, alors, sur les sujets de pénibilité qui sont très importants. Parce que, je le disais encore une fois, l'aspiration légitime à partir plus tôt quand on a un métier qui a des effets négatifs sur votre santé, elle est plus que légitime, elle doit être protégée et même amplifiée dans le nouveau système. Il y a trois sujets. Le premier, c'est la prévention. On n'est pas bon en France sur la prévention. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Les carreleurs, il y a des types de genouillères, d'équipements qui permettent d'éviter certains problèmes. La manutention, on peut avoir aussi système de ventouse qui permet que c'est pas le corps humain qui porte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des sujets d'équipement, de process, d'organisation du travail. Donc ça, c'est un dialogue qu'on a commencé avec patronat et syndicats. Il faut qu'on avance. La deuxième chose, c'est la possibilité de se reconvertir. Parce que oui, faire 10-20 ans un métier pénible, c'est une chose. Le faire 40 ans, ça n'a pas les mêmes effets sur la santé. Et donc, ce qu'on a mis sur la table des discussions, qu'on va discuter, c'est la possibilité d'avoir un véritable congé de reconversion financé qui permet à mi-carrière, au bout de 15 ou 20 ans, de pouvoir changer de métier pour un métier moins pénible. Et puis après, il y a comment on fait dans les choses qu'on ne peut pas mesurer au millimètre chaque jour par personne, parce que ça veut dire que ça sera toujours inapplicable, dans la grande majorité des emplois des petites entreprises, pour aller au-delà de la reconnaissance des 10% d'incapacité qui permet de partir 2 ans plus tôt. Et encore une fois, il y a des gens qui partent aujourd'hui grâce à ça, grâce au fait qu'on l'a mis dans les ordonnances travail, qui sinon ne partiraient pas. Mais aussi, il faut qu'on aille plus loin parce qu'il y a des métiers. Les déménageurs, c'est des tâches répétitives.
Donc
ça,
vous
c'est
entendez
déjà
cela. Laurent,
bien sûr qu'on entend. Mais il faut y aller par métier, pas par statut, par métier.
Une dernière question. Vous avez parmi vos auteurs préférés Victor Hugo qui disait « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». Est-ce que, pour vous, la lutte aujourd'hui, elle s'achève? Et que dites-vous à vos collègues de la CGT et de Force ouvrière qui veulent continuer le mouvement?
La lutte, elle est quotidienne. Et la lutte, c'est pas forcément les manifestations de rue ou les grèves.
Donc vous ne serez pas dans la rue mardi?
Même si ça y contribue, et nous, de temps en temps, on appelle et on fait des mobilisations, y compris par la grève, qu'elle soit sectorielle ou plus globale, là, il y a un temps de dialogue. Mais je voudrais alerter sur ces collègues de syndicats dont vous parlez, qui ont très politisé, beaucoup politisé le mouvement social, repris en cela, d'ailleurs, par des instrumentalisations de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui appelle à la grève générale, applaudi par Marine Le Pen et quelques autres. J'ai même vu récemment qu'Olivier Faure reprenait les éléments de langage et la stratégie de Philippe Martinez. Bon, je sais pas, peut-être qu'il veut gagner en couleur, je suis pas sûr qu'il gagne en surface, mais quand on politise un mouvement social, on prend toutes les chances de le réduire et de le radicaliser. Moi, je suis mobilisé tous les jours par la négociation, par la discussion. Lorsqu'on veut avoir des avancées, il faut les formuler. Oui. Et nous, à l'UNSA, on en a formulé, on est le syndicalisme des solutions.
Merci beaucoup Laurent Esquire, merci Muriel Pénicaud, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.